Est-ce que tu te sens prêt? On se réjouit pour toutes les personnes qui écoutent à travers Internet ou qui peuvent écouter la parole de Dieu. Et on se réjouit que notre frère, ami Jean-Jacques Mélan va nous apporter la parole. Sois libre de nous parler de ce que le Saint-Esprit t'a mis dans ton cœur.
Merci. Merci de votre accueil. C'est un plaisir d'être là ce matin. Nous sommes dans les préparatifs de la fête de Noël. Nous entrons dans ce temps précieux de Noël. Oh, je n'ignore pas que la date de Noël fixée dans nos traditions au 25 décembre est une date arbitraire. Cela, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, j'ai appris dans notre dernier voyage que les Juifs messianiques fêtent la naissance de Jésus à la fête des Sukkot, c'est-à-dire à la fête des tentes. Je ne le savais pas, j'ai découvert ça, ce qui ne me pose aucun problème. On peut très bien imaginer que la naissance de Jésus ait été dans des dates qui ne sont pas fixées dans le calendrier. L'essentiel, c'est que nous célébrions la naissance de notre Seigneur. Et je crois là, chers amis, qu'il y a quelque chose qui est dans le socle de notre foi, quelque chose qui est vraiment le socle de la vie chrétienne, que de célébrer la venue de Jésus. Et alors, ce matin, je vais lire un texte qui parle de l'Annonciation et des événements qui ont précédé la venue de Jésus. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, depuis le verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, la femme du prêtre Zacharie, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Et au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de cette vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, toi comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé le fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Mais Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. J'aime rappeler ces récits. Ils sont vraiment, à mon sens, le socle de notre foi chrétienne. Et ce matin, il y aurait de quoi méditer sur ces figures tout à fait remarquables d'Élisabeth et de Marie. Mais finalement, ce matin, j'aimerais méditer sur l'un des mots que vous avez entendu dans ce texte et qui est apparu à 3 reprises. Alors que ceux qui ont de bonne mémoire et qui m'ont bien écouté essayent de repérer le mot qui est apparu à 3 reprises. Je ne ferai pas lever les mains, ce serait malheureux pour moi. Parce que moi, je ne les aurais pas repérés, rassurez-vous. Donc, le mot qui est apparu à 3 reprises, c'est le mot « grâce ». Ah, Élisabeth, dit, il m'a été fait grâce. L'ange Gabriel dit, il y a de la grâce qui repose sur toi. Et Marie dit, eh bien oui, l'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce. Oui, c'est l'ange Gabriel qui le dit deux fois, tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc j'aimerais vous entretenir de la grâce. Et vous savez, c'est un thème que j'aime énormément. Alors je croyais en avoir fait le tour, et ces dernières semaines, ces derniers jours, même hier soir, jusqu'à 10h du soir, alors que je revisitais ce texte, j'en ai encore découvert d'autres aspects. Donc, merci du cadeau que vous me faites. Et puis, vous allez me dire, oui, mais moi je ne m'appelle pas Elisabeth, je ne m'appelle pas Marie, je ne m'appelle pas Gabriel. Alors, c'est sympa, et puis je sais bien, dans ma famille, dans mon voisinage, il y a des gens qui ont reçu la grâce, mais moi, est-ce que j'ai vraiment reçu la grâce? Alors, je vous envoie à la toute dernière parole de la Bible. Il n'y en a plus d'autres après. La toute dernière parole de la Bible, Apocalypse 22, 21, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Donc, qui que vous soyez ce matin, vous êtes digne de vivre quelque chose de la grâce de Dieu. La grâce n'est pas réservée à je ne sais pas quel personnage particulièrement méritant, réservée à quelques prophètes qui auraient son nom dans les Écritures. Vous êtes, vous, les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Alors ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour comprendre, si c'est possible, effleurer la profondeur inouïe que recouvre ce mot « grâce ». Tout d'abord, dans la vie de tous les jours, c'est un mot qui nous arrive d'utiliser dans la vie de tous les jours, et ça c'est intéressant parce que ça nous permet de l'accrocher au quotidien. Eh bien, dans la vie de tous les jours, on parlera d'un état de grâce, surtout pour les élus, un président qui est élu, on dira, il a vécu ses 100 premiers jours des années de grâce. On parlera aussi de l'état de grâce d'un sportif. Bref, ça veut dire une réussite. La grâce, mesdames, elle vous convient tout particulièrement bien, gracieuse, charmante, c'est la beauté. La grâce, c'est aussi la gratuité. Ah, tu me devais 20 francs, écoute, j'efface, je te fais grâce pour ces 20 francs, on oublie. Il y a aussi un langage juridique, qu'on utilise peut-être pas très souvent, mais qui apparaît dans les réalités politiques de notre monde, juridico-politiques, eh bien, des autorités ont le droit de gracier des condamnés. On sait que le président de la Confédération ou le président de la République française a l'habitude de gracier des personnes, et il en a ce droit. Donc, c'est l'usage juridique condamné. Vous avez été condamné à une peine, et moi, je vous gracie, pour des raisons X, Y. Grâce, ce mot vient du grec, qu'on peut traduire par faveur et gratuité. Dans le Nouveau Testament, le mot grâce, vous le trouvez aussi dans les salutations. C'est intéressant que les auteurs du Nouveau Testament considèrent que, au lieu de dire bonjour, monsieur, dame, salut, Albert, Alexandre, ou qui que tu sois, eh bien, il est dit grâce à toi, grâce soit sur toi. C'est une manière vraiment de signifier une salutation, j'allais dire, généreuse. Et puis, bien sûr, la grâce signifie la bonté, la miséricorde. Charis, hey, charis, faveur, gratuité. Elle désigne la bienveillance de Dieu, la faveur imméritée que Dieu nous accorde. Et nous avons fait, nous essayons de faire l'expérience de la grâce. Alors comment comprendre cette richesse extraordinaire de la grâce? Eh bien, je crois que, en tout cas c'était bonne expérience, la première manière de saisir la question de la grâce, c'est un peu la manière dont Luther a vécu, c'est lié à la question du fardeau de nos péchés, à la question de la peur de la perdition et du désir du salut. Mais qui va me sauver? Qui va m'arracher des flammes de l'enfer? Qui va m'offrir le salut de mon âme à laquelle j'aspire tellement? Et c'est l'expérience de Luther. Et Luther, qui était un homme particulièrement soucieux, particulièrement tourmenté à l'intérieur de lui-même, il a fait cette prière d'une manière, d'une intensité extraordinaire. Un jour bien connu, c'est un jour où il se déplaçait en Thuringe et il était atteint par un orage. Et cet orage était terrifiant pour lui. Il s'est protégé sous un arbre, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure des recommandations, mais pour lui, ça lui a réussi. Et puis à ce moment-là, vraiment, il s'est effondré devant Dieu et il a dit « Désormais, je me fais moine ». Et il est devenu moine, il est rentré au monastère. Ce qui n'a pas du tout solutionné son angoisse. Au contraire, ça l'a amplifié et Luther était parmi, c'est ce que disent ses supérieurs, était parmi ceux qui étaient les plus pieux à chercher constamment à vivre pénitence sur pénitence. Et vous savez qu'il y avait des petites pénitences, des grandes pénitences et puis la pénitence extrême que vous pouviez vivre à Rome. Luther les a toutes faites, sans espoir, sans résultat. Jusqu'au jour où il a découvert ces textes. « Vous étiez morts par vos offenses ». Nous étions morts par nos offenses et Dieu nous a rendus vivants par Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ou dans Colossiens, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu gras et vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour nos offenses. Et puis bien sûr, toute l'épître aux Romains. Reprise dans de nombreux textes du Nouveau Testament. Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde. Grâce, miséricorde, des mots similaires. Donc, c'est la première expérience que beaucoup parmi nous ont fait, que j'ai fait moi-même, que Luther a fait. Nous sommes séparés de Dieu par nos offenses, nous méritons la punition divine, mais Jésus a porté ma peine, il a été accusé à ma place, il a été condamné à ma place, et désormais, eh bien, comme il est mort pour ma justification, son sacrifice me réconcilie avec Dieu. Il me justifie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En d'autres termes, dit dans un langage un peu plus imagé, la grâce est d'une certaine manière la clé qui m'ouvre la porte du ciel, le billet qui me permet d'entrer dans le train du paradis. Et à ma mort, par grâce, je sais, mon assurance c'est que je serai du côté de ceux qui ont la vie éternelle. Alors, j'ai été nourri par cette vision des choses, une vision des choses qui est un petit peu comme arrière-fond l'idée que mon destin est un destin dramatique, sous le regard d'un Dieu menaçant, voire vengeur, punisseur. Cette image d'un Dieu menaçant, vengeur, punisseur, c'est une image absolument universelle. Si vous questionnez les 6 milliards d'habitants de cette terre, et si vous questionnez tous les habitants des 6 000 ans, 8 ou 10 000 ans qui nous ont précédés, ils vous diront toujours ceci. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans les représentations des diverses divinités dans le monde antique, les dieux s'étaient toujours présentés comme des dieux menaçants, des dieux qu'il s'agissait de calmer la fureur, et des dieux qu'il s'agissait d'obtenir, dont il fallait obtenir les faveurs au travers de centaines et de centaines de sacrifices. Eh bien, je suis complètement revenu de cette vision des choses. Je suis complètement revenu de cette vision des choses en découvrant que finalement, la grâce, ce n'est pas un ajout ou un accident à la nature de Dieu. Vous savez qu'un accident, je crois que c'est une définition scientifique ou bien même philosophique où il y a une nature principale et puis tout à coup cette nature développe un autre aspect mais qui est quelque chose qui se surimprime à sa nature première. Non, la grâce n'est pas un ajout ou un accident à la nature de Dieu, la grâce, c'est l'identité première de Dieu. Et je vous assure que j'ai mis des années pour entrer dans cette compréhension première que Dieu est fondamentalement, dans son être profond, grâce, bienveillance, miséricorde. Alors, qu'est-ce qui m'a conduit à cette certitude? Eh bien, c'est certainement l'un des textes fondateurs des Écritures que nous trouvons dans l'Exode, c'est l'expérience de Moïse au mont Sinaï. Vous savez que Moïse au mont Sinaï, il se présente devant la montagne de l'Horeb. Le peuple doit rester dans la plaine. On peut très bien, je me souviens de ces configurations. Vous avez une toute grande plaine qui se trouve au pied du Sinaï. Donc là, il pouvait très bien y avoir plusieurs dizaines, voire vingtaines de milliers de personnes. Et puis cette plaine, bien que nous soyons en plein désert, si vous creusez, il y a de l'eau. Donc on peut très très bien imaginer que le peuple d'Israël ait résidé à cet endroit-là. Et Moïse monte sur le Sinaï. C'est vraiment une montagne abrupte. Il y a quasiment une rupture par rapport à la plaine et puis ensuite les premières falaises qui montrent un cheminement tout à fait marqué. Alors il monte sur le Sinaï où il est censé recevoir les tables de la loi, il les reçoit, mais ça dure longtemps, 40 jours, le peuple s'impatiente, le peuple se fait un veau d'or et il adore le veau d'or. Moïse redescend, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu, il a une vision absolument sublime de la présence de Dieu. Il n'y en a eu pas beaucoup, mais Moïse est comme Paul, l'un de ceux qui a eu le privilège de voir la présence même de Dieu. Et puis cette présence l'a évidemment marqué profondément. Alors en voyant le veau d'or que le peuple s'est construit, Moïse a dû se dire, mais c'est catastrophique. C'est l'effondrement de tout, c'est un tsunami, c'est réellement le retournement de tout ce que nous espérions vivre et il va arriver un cataclysme de telle sorte que Dieu va détruire ce peuple. Alors Moïse demande à Dieu son nom et lui dit, mais quel est ton nom? Vous trouvez cela dans Exode au chapitre 34, chapitre 33. Et le Seigneur répondit, je fais passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom du Seigneur, deux points, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc à ce moment crucial, au moment où il aurait été parfaitement légitime et compréhensible que Dieu détruise le peuple d'Israël, pour en refaire un nouveau peuple à partir de la personne de Moïse ou d'une autre. D'ailleurs, la proposition avait été faite à Moïse et Moïse a refusé cette proposition. Lorsque Moïse demande à Dieu, mais quel est ton nom? Voilà, je vais te dire mon nom. Mon nom, c'est Je fais grâce, miséricorde. Au chapitre suivant, 34, versets 5 à 10, c'est exactement la même chose. Le Seigneur descendit dans la nuée, il se tint là et Moïse proclama le nom du Seigneur. Proclamer, vraiment confesser, annoncer le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et proclama, ça c'est Dieu qui proclame le nom du Seigneur. Donc c'est intéressant, le texte montre que les deux sont articulés pour proclamer ce nom. Deux points, le Seigneur, Dieu miséricordieux, bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité et de loyauté. Puis ensuite, alors, il explique qu'il est fidèle à 1000 générations pour ceux qui gardent son alliance. Ça veut dire 30 000 ans, si on accepte qu'une génération dure 30 ans. Et là, nos traductions sont malheureusement mal faites, parce qu'il est dit qu'il punit. C'est pas vrai. Il pédagogise, il éduque. Il pédagogise, il éduque. Parce qu'il ne laisse pas passer la faute, mais il pédagogise et il éduque la faute chez les enfants et leurs petits-enfants pendant 4 générations, soit 120 ans. J'étais bouleversé de réaliser que le temps, l'ampleur de la grâce, c'est 30 000 ans, si on veut, enfin vous repérez mes images, L'ampleur de l'AMM, de la pédagogie, c'est 120 ans. Tout cela est tellement beau, tellement profond, il faudrait s'y allonger. Je n'ai pas le temps. Donc, la grâce, chers amis, il faut vraiment le comprendre, c'est la nature même de Dieu. Et c'est important de le comprendre. Il y a eu un séminaire dernièrement à la colline de tout un mouvement qui parle de Dieu, le cœur du Père, et qui vraiment essaye de développer cette vision d'un Dieu qui est ontologiquement, ça veut dire dans sa nature profonde, un Dieu de grâce, avant qu'il devienne ou qu'il ait, qu'il exprime sa grâce de différentes manières, et j'y reviendrai. Donc, la grâce n'est pas une espèce de fluide ou je ne sais pas de quel événement qui nous tomberait dessus. La grâce, c'est vraiment la présence de Dieu et c'est ce qui se passe en moi lorsque j'adhère à cette présence de Dieu. La grâce, c'est la présence de Dieu dans mon quotidien. Et ça me permet de dire que le salut n'est plus seulement, je dis bien seulement, comme je l'avais énoncé il y a quelques minutes, une déclaration juridique. C'est génial, une déclaration juridique. Quand on est accusé, et puis qu'on nous dit accusé, condamné, vous êtes blanchi de votre condamnation, vous êtes libre, c'est déjà une parole extraordinaire. Mais le salut, c'est bien plus que cela. Le salut, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Et Liliane qui s'occupe des détenus en sait bien quelque chose. Et vous avez combien de détenus qui finissent à arriver à la fin de leur peine? On leur dit, voilà, vous avez tout expié, maintenant vous êtes libre. Il se passe quoi avec ces pauvres détenus? On les met à la porte de la prison, et souvent à la porte de la prison, il n'y a qu'un taxi qui les attend. Il n'y a plus de conjoints, il n'y a plus de famille, et ils ne savent plus où aller. Alors que la grâce que Dieu nous offre, ce n'est pas une déclaration juridique, c'est une invitation à vivre dans sa présence. La grâce, c'est la présence de Dieu. Vous voyez comme c'est différent. La grâce, ce n'est pas une déclaration juridique, la grâce, c'est une présence de Dieu. Le salut n'est pas simplement l'acquisition d'une justification, le salut, c'est d'être relié à Dieu. Mais Jésus l'a dit dans des pages et des pages dans l'évangile de Jean, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. » Le salut, c'est vivre une présence au quotidien. La théologie du salut, et cela c'est chez les orthodoxes que je l'ai découverte, n'est pas une théologie juridique, c'est une théologie de l'être. L'être, être en relation avec Dieu, c'est me permettre de partager, de communier au salut. Dieu est la grâce, c'est le même mouvement. Et ceci, même lorsque Dieu se met en colère, parce que la colère de Dieu, eh bien, elle est largement attestée dans la Bible. Eh bien, même lorsqu'il se met en colère, il reste en relation d'amour avec ceux dont il est en colère. Je n'ai pas le temps de le lire, mais vous verrez sur le résumé trois références qui, eux, sont absolument péremptoires. Et une autre référence qui m'a bouleversé, c'est celle où Dieu dit, et ça, il le dit d'une manière universelle, pas seulement à son peuple, il dit, j'ai été en colère un moment, mais ma colère ne durera pas parce que, par crainte de l'anéantissement de mes créatures. Et vous trouverez cela dans Ésaïe 57, verset 16, et dans d'autres textes, Samuel, Malachie, etc. Donc Dieu, ce Dieu bouleversant, il le sait bien, et on le dit assez, qu'entre sa sainteté absolue et notre nature pécheresse, il y a incompatibilité. Mais en fait, il ne gère pas cette incompatibilité comme un président de tribunal qui trouve des accusés, des personnes à condamner, accusés d'un côté, puis d'autres qui sont blanchis. Il les gère dans un bain d'amour, de miséricorde et de bienveillance. Donc même lorsqu'il il est en colère, il sait très bien que sa colère ne pourra pas durer l'éternité, parce que dans ce cas-ci, ses propres créatures viendraient à disparaître. Éphésiens, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde. La grâce, c'est le souffle de Dieu en l'homme. C'est Dieu qui a fait le premier pas avant la création du monde. Comme je l'ai dit, Dieu n'est pas ce Dieu cruel et menaçant des mythologies antiques, un monarque sévère et distant dont il faudrait apaiser la colère à force d'offrandes et de sacrifices. Dieu nous offre son amour et nous invite à l'accepter. Et alors, et c'est cela que le cœur de mon message ce matin, si nous réalisons que le salut, c'est le compagnonnage avec Dieu, c'est le partage d'une présence demeurée en moi, notre vie va changer. Si mon salut, c'est simplement avoir un billet de train pour le bon train dans la bonne destination, je vais me dire, mais oui, c'est bien, c'est merveilleux, mais en quoi est-ce que je suis vraiment concerné? Et puis, souvent, nous avons toute une série d'exhortations à vouloir être à la hauteur du salut qu'on nous a donné. Tout cela est très juste. Tout cela est très bon, j'aimerais simplement faire un pas de plus. Le salut est le partage d'une présence. La seule chose qui puisse changer le cœur de l'homme, c'est d'accepter d'être aimé. Et c'est Dieu qui a fait le premier pas. Vous voulez changer? Vous voulez que votre vie soit différente? Votre regard sur les autres, sur vous-même? Votre manière de réagir lorsque vous entendez des nouvelles de toute nature? Et là, on aurait tellement de choses à vous raconter, mais on n'en a pas le temps. Voulez-vous que ça change? Eh bien, la seule chose qui puisse changer le cœur de l'homme, c'est d'accepter d'être aimé. Et précisément, la grâce, c'est cette vie de tendresse qui couvait pour nous de toute éternité dans le cœur de Dieu. Lisez Osée 11. Lorsqu'Israël était enfant, je l'ai aimé. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher. Je l'y prenais dans mes bras, mais il ne voulait pas que je prenne soin d'eux. Je les menais avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme celui qui soulève un nourrisson contre sa joue. Non mais, on parle de Dieu. Vous saviez ça? Moi, j'en ai vu ce matin, c'était magnifique de voir tous ces pères qui prenaient leurs enfants dans les bras. C'est beau, ça, on le dit. Mais est-ce qu'on vous a dit que Dieu vous a pris sur sa joue? Vous saviez ça? Mais vous savez, vous êtes privilégiés de le savoir. Jamais on vous le dira dans le judaïsme. Jamais on vous le dira dans l'islam. Jamais on vous le dira dans le bouddhisme. Jamais! Il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui vous dira ça. Que Dieu vous prend dans ses bras pour vous coller à sa joue. Alors Jésus est au cœur de cette grâce, bien sûr. Jésus est la manifestation la plus éclatante, lumineuse de l'amour de Dieu pour l'homme. C'est lui qui nous révèle pleinement cet amour. C'est dans la personne du Christ et à partir d'elle que l'absolu de la grâce de Dieu s'offre à nous. Et alors, nous pouvons nous ouvrir à lui, nous pouvons vivre une nouveauté de vie, un renouvellement qui est tout à fait transformant. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et la vie en abondance. Je reviens à une expression que nous utilisons volontiers et qui est aussi biblique. Il est juste de dire que Dieu fait grâce. J'ai vérifié, on la trouve dans la Bible. Mais moi je trouve que cette expression elle est restrictive. Elle est trop limitative parce que d'abord, elle utilise le verbe « faire ». Puis vous savez, les verbes « faire », c'est un verbe dangereux parce que, bon là là, qu'est-ce qu'on ne fait pas qu'est-ce qu'on ne dit pas de sottise parfois avec ce verbe « faire ». Et puis, en disant que Dieu fait grâce, on risque, et là je me répète, d'imaginer ce Dieu menaçant qui veut bien à un moment donné changer de visage et puis nous offrir un visage bienveillant, un accident dans sa nature. Non, moi j'ai dû apprendre à dire que Dieu est grâce. C'est tout différent. Et dans cette perspective-là, je crois fondamentalement que le temps de la grâce n'a aucune fin. C'est une des choses qui m'a quand même un peu surpris dans certains livres de découvrir que le temps de la grâce s'achèvera. Je ne comprends pas. Parce que Dieu va disparaître. Si le temps de la grâce s'achève, c'est que Dieu va s'achever, il va disparaître. C'est impossible. Tant que Dieu est vivant, et il le sera d'éternité en éternité, le temps de la grâce se perpétuera. Je vis de la grâce. Il faut regarder un petit peu ce qui nous concerne, nous, personnellement. Et c'est peut-être un peu la conclusion de ce que je vais vous apporter, mais il y aurait tellement de belles choses à dire. Je vis de la grâce. Je ne vis pas de mes performances, de ma piété, de ma propre justice. Vous savez, je peux être riche, millionnaire, je peux avoir tout ce que je veux dans l'abondance. Enfin, vous connaissez toutes ces images. Et ces images qu'on nous présente à outrance, en rapport en particulier avec la dernière élection aux États-Unis, où on a l'impression qu'on baigne dans une espèce d'opulence, de d'érotisme et d'argent, et on rêve à ces espèces. Mais non, tout cela est vide, vain, néant. Je ne vis pas de mes performances, je ne vis pas de ma propre justice, je ne vis pas de mes acquis. Je reçois ma vie des mains de Dieu. Je me reçois de Dieu. Ce qui me fait exister, c'est Dieu. Vous comprenez cette expression? C'est pas très français, mais ce serait assez sympa que je puisse me faire comprendre. Je reçois ma vie des mains de Dieu. Je me reçois de Dieu. Donc maintenant, c'est vrai que bon, je respire, la respiration, c'est ce qui me fait vivre, je suis d'accord. Si j'arrêtais de respirer, vous pourriez me mener à l'hôpital, ce serait un petit peu embêtant. Je dois me nourrir, etc., etc. Mais c'est exactement le sens que je mets. Je reçois ma vie de ma respiration, donc je reçois ma vie de la grâce de Dieu. C'est elle qui réellement irrigue mon être profond pour mettre en place ce qui doit être mis en place, mes problèmes avec mes voisins, mes problèmes avec ma santé, avec mon avenir, avec mes proches, que sais-je. Bon, il y a des tas de choses que nous devons mettre en place dans notre vie. Eh bien, si je reçois ma vie de la grâce de Dieu, je vais pouvoir vivre et ça me permettra de mettre ces choses en place. Je vis de la grâce, c'est affirmer qu'il y a au plus intime de ma vie, au cœur de mes difficultés, quelqu'un qui me fait participer à sa présence et qui m'offre espérance et consolation. Voyez, la grâce est une présence, une ressource au cœur de mon existence, au-delà des circonstances qui ont été belles ou mauvaises, qui ont construit ou qui ont détruit. La grâce, alors, vous l'avez compris, ce n'est plus seulement un moyen de salut. Elle devient un style de vie. Un style de vie. Et c'est Paul qui nous le dit, parce que quand Paul a eu une grosse difficulté de santé, il lui était répondu, « Ma grâce t'a suffi. » Il a compris que c'était un style de vie. Et vous verrez dans le papillon que je vous distribuerai, je vous ai mis beaucoup d'autres textes, beaucoup d'autres citations que je ne veux pas énumérer maintenant, parce qu'il nous faut rentrer. Je vous invite à rentrer dans un temps de recueillement, de réaliser que vivre de la grâce, oui, c'est vraiment adhérer à cette présence au cœur de mon quotidien qui me propose de vivre chaque moment sous son regard. Vivre de la grâce, c'est unifier sa vie, harmoniser sa vie. Je pourrais aussi méditer sur grâce et contentement, consentement. Oui, à grâce et contentement, c'est vrai, mais à grâce et consentement. Quelle est l'une des premières qui nous a fait découvrir la grâce et le consentement? Ben, de nouveau, c'est Marie. Je reviens au début de ma prédication. Il a été dit à Marie, « Tu es remplie de la grâce de Dieu. » Et qu'est-ce que Marie a pu dire à la fin? Elle était effrayée, 14 ans, imaginez une jeune fille de 14 ans. Et imaginez les troubles que ça a pu provoquer en elle, ce sentiment d'être lapidée, bannie de sa famille, etc. Et elle termine en disant, qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est ça le consentement. Parce qu'elle est entrée dans une dynamique de grâce, elle a pu vivre la dynamique du consentement. Donc grâce et consentement sont deux choses qui sont étroitement liées. Oui. Vivre la grâce, c'est accepter de franchir positivement les étapes de l'existence. C'est quitter l'insouciance de l'enfant pour devenir un adolescent. C'est assumer positivement les réalités de l'adulte. Vive la grâce, c'est faire de toutes nos journées des naissances. Une naissance à notre aujourd'hui, à l'aujourd'hui de Dieu pour nous. C'est entrer dans le flux de vie que Dieu nous prête encore aujourd'hui. La vie éternelle, dit Jésus. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Donc la grâce, c'est vraiment ce qui me fait exister. Et ma prière, c'est que pour chacun d'entre nous, le dernier mot de la Bible, comme je vous l'ai dit, soit le premier mot de nos journées et de chacune de nos minutes. Amen. Seigneur, merci pour ce cadeau extraordinaire que tu nous fais. Tu nous fais le cadeau de ta personne qui est ontologiquement dans son être profond, bienveillance, grâce et miséricorde. Alors c'est vrai que le péché nous a éloignés de toi. C'est vrai que le péché t'a blessé. Et cette blessure a provoqué colère chez toi. Mais tu nous dis que c'est encore une colère d'amour. C'est encore une colère de l'amant trompé, mais qui reste fondamentalement l'amant de ceux que tu as créés. Et tu nous dis que cette colère un jour passera. Alors merci de cette extraordinaire bonne nouvelle. Et merci pour notre quotidien, Seigneur, qui permet à la grâce de donner d'autres couleurs aux couleurs de notre vie. Et cela, eh bien, c'est par l'œuvre de ton esprit. Et tout à nouveau, j'invoque ton esprit sur chacun d'entre nous. Amen.